Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 23 novembre, si je me souviens bien. Il est un peu plus de 9h. Et il fait plutôt beau, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je te dirais bien que ça va bien. Pourquoi pas ? Globalement, ça va. J'ai quelques petits trucs qui tournent en tâche de fond, mais on essaye de gérer ça. Voilà, j'avais juste besoin de faire un petit enregistrement. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Je sais pas. Oui, je pense, si je fais la démarche, vu que c'est de plus en plus épisodique, que la fréquence est de plus en plus élevée, c'est globalement qu'il y a peut-être un besoin. J'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. Peut-être qu'au cours de cet enregistrement, on arrivera à mettre le doigt dessus et j'essaierai de me poser des questions et d'essayer peut-être d'y trouver des réponses aussi. Peut-être que toi, tu auras des réponses aux différentes problématiques que je pourrais éventuellement soulever. J'ai pas de plan spécialement construit. Je sais simplement que j'avais besoin de faire ce geste, de prendre mon zoom, de mettre le micro, de rouler et de parler. Globalement, ça, c'est là où j'en suis à cet instant précis. Pour te situer les choses, je suis sur l'autoroute entre Bordeaux et... Alors celle-là, c'est le tronçon Bordeaux-Nantes. Je suis parti ce matin sur les coups de 7h30 de Bergerac. J'étais cette semaine dans le Lot-et-Garonne, si je dis pas de bêtises. Rouler lundi, intervenir mardi à Villeneuve-sur-Lot, mercredi à un bled à une vingtaine de bornes de Bergerac, je crois que ça s'appelle Saint-Quentin-du-Dropt. Voilà. Et donc repartir ce matin, arriver à Rennes tout début d'après-midi, je pense. Et finir en télétravail demain s'il n'y a pas d'intervention urgente à faire dans la région bretonne. Il fait plutôt beau, il fait plutôt frais, j'ai l'impression, parce que le thermomètre de la voiture affiche 4,5 alors qu'on est entre Bordeaux et Saintes. Il faisait 2 quand je suis parti de Bergerac ce matin. Mais, chose assez appréciable, il y a un grand soleil, le ciel est bien dégagé. Et ça fait bizarre. Enfin, moi, ça me fait bizarre parce que ça fait un moment que j'ai pas eu un environnement aussi lumineux. Voilà. En Bretagne, ces dernières semaines, c'était pas ouf. C'était relativement couvert. Les coins de ciel bleu étaient plutôt rares. Sur la route, globalement, j'ai pas eu non plus des grands moments où j'avais de la clarté, où j'avais l'impression d'être... tu sais, cette impression d'être vivant quand t'es baigné par le soleil, ou au moins par la lumière. Donc là, j'en profite. T'as les couleurs d'automne qui se mettent sur les arbres, même si on va bientôt basculer dans l'hiver, donc des couleurs de fin d'automne, c'est plutôt agréable. Sur cette autoroute, c'est un coin qui est plutôt, mais je crois que j'en avais déjà parlé, c'est un coin qui est plutôt agréable, c'est bordé d'arbres, un peu comme ce qu'on retrouve entre Nanterre-Rennes ou sur la 2-2, c'est énormément boisé aussi. Tu sais, il y a ce fameux passage où passer Sainte là, je vais me taper la purge, enfin ce que moi je considère comme une purge. Sainte, Niort, Nantes, qui est absolument pas à mon goût en termes de paysage. Voilà. Bah toujours pour le taf, hein. Donc toujours à voyager. La semaine dernière, j'étais à Nantes, donc pas trop loin de la maison, mais j'ai passé du lundi. Je suis parti le lundi après-midi, je suis rentré le jeudi soir pour une chose que j'avais jamais encore pratiquée dans le domaine professionnel même au global, mais plus particulièrement dans la société où je travaille, c'était pour faire de la formation. Quelque chose qui avait suscité un intérêt particulier pour moi dans ce poste-là, parce que j'avais l'impression de... Ouais, excusez-moi, c'est un message de Poppy. Je vais le lire après l'enregistrement. Et qui avait suscité un intérêt pour moi, ne serait... parce que j'ai la sensation, j'ai l'envie de partager, mais j'ai l'envie surtout à travers le partage de faire progresser à ma... dans la mesure de mes moyens, bien sûr. Et j'ai envie d'accompagner les gens dans une évolution. Et ça, c'est le terme général. Là, c'est de l'évolution dans le poste de travail, la conduite du poste de travail. Quel que soit ce qu'on mette dans le mot travail, dans la valeur travail, même si j'aime pas cette formulation. Mais d'essayer les gens de les aider à avancer, de leur apporter ce que je peux leur apporter en toute modestie, en toute simplicité. Ça a été 3 jours de formation théorique, pratique. Quelque chose que j'avais jamais fait. Quelque chose qui aurait pu cristalliser des peurs chez moi s'il y a peut-être encore 15-20 ans. Même peut-être 10. Aujourd'hui, je l'ai abordé d'une façon plutôt sereine. Peut-être que ça s'est ressenti. Mais je me suis senti plutôt à l'aise. Et j'ai senti de par le retour que j'avais de mes stagiaires, ils étaient au nombre de 4, que ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait une bonne émulation entre eux, il y avait une bonne émulation avec moi. J'avais essayé de m'attacher à ne pas les perdre, à expliquer les choses correctement, progressivement, faire attention à toute forme d'incompréhension, qu'elle soit dans le questionnement verbal ou dans le comportement non verbal. Ça a été riche. Ça a été riche en sollicitations, ça a été riche en explications. Physiquement, j'ai bien dégusté, j'étais vraiment épuisé. C'est vraiment... Ça demande à puiser dans pas mal de sacs à énergie. Donc, je suis ressorti globalement de ces 3 jours-là vraiment sur la limite de ce que physiquement j'étais capable de tenir. Ça, c'est un aspect que j'avais pas pris en compte et qui m'a vraiment interloqué. Je pensais pas qu'on pouvait ressortir aussi rincé d'une séance de formation. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, il faudra se préparer un petit peu plus, faire un petit peu plus attention au temps de repos avant. Ménager ces temps de repos aussi durant les interventions. Voilà, il y a quelques petits trucs que j'ai appris. C'est que quand les stagiaires veulent échanger entre eux, des fois, ça peut être des petites pauses respiratoires pour se dire « Ok, vas-y, remobilise-toi, reconcentre-toi et tout en surveillant un tout petit peu la conversation, voir si elle ne dérive pas sur des choses hors contexte. » Parce que il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, mais ça c'est humain, peuvent vite déborder du côté humain. je pense que je suis capable d'être le premier à le faire, donc je ne jetterai pas la pierre à ces gens. Le tout, c'est de dire, ok, on peut avoir un espace où on s'autorise cette digression. Il ne faut pas que ça devienne la norme et que ça devienne le thème général. Mais voilà, c'était une très bonne expérience. Je suis vraiment impatient de le refaire. Je sais qu'avec mon responsable hiérarchique, et mon collègue, on est en train de construire une autre formation pour un autre client en Bretagne. Ce qui implique que globalement, je devrais être le seul à intervenir là-dessus. Là, ça allait, j'étais encore en duo avec mon collègue du Nord, puisque lui faisait la partie expert et technicien de maintenance, alors que moi, je faisais une session opérateur-expert. Pour vous débriefer le truc, opérateur, c'est quelqu'un qui va conduire la machine, savoir la démarrer, l'arrêter, la nettoyer et éventuellement gérer une situation d'urgence. Le niveau expert, c'est plus quelqu'un qui va venir à la demande de l'opérateur pour intervenir sur des règles de tri et modifier quelques règles de tri et apporter quelques corrections. Voilà. Après, le technicien maintenance, bon, c'est purement c'est purement machine, pas mécanique. Parce que là, on a de la mécanique, on a de l'optique, on a de l'électronique, on a de l'électricité. Donc là, c'est encore autre chose. Je ne suis pas encore au niveau du formation technicien de maintenance. Il y a encore quelques subtilités dans certaines machines que je n'ai pas encore tout à fait. Mais globalement, sur un niveau opérateur expert, ça va. Donc, c'était vraiment une bonne expérience. C'est un des aspects que j'attendais dans ce métier aussi. J'avais fait 2-3 formations, j'avais assisté à 2-3 formations en tant qu'observateur. Et ça m'a permis de me forger un avis sur ce que nous on proposait, sur la manière dont moi je pouvais le transposer, parce que j'ai remarqué que chaque formateur transpose le support à sa façon. Les grandes lignes sont là, mais il y a toujours des petites subtilités. Globalement, j'ai retiré un sentiment de satisfaction par rapport à ce que j'avais produit, et notamment grâce au retour des gens qui ont assisté à cette formation. Je pense avoir réussi globalement cette transmission. Ça reste à consolider. Mais je pense que pour une première fois, pour un début, c'était cool. Et donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout que en ce moment, comme je disais peut-être en préambule, j'ai pas mal de trucs qui tournent en tâche de fond, pas mal de questions, pas mal de remises en question. Qui sans être pompeux peuvent être pas existentiels, mais font appel à des notions de croire ce qu'on pense et penser ce qu'on croit. Donc ouais, ressortir d'une semaine comme ça avec un sentiment de contentement, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a dans le backlog qu'on pourrait livrer et qui pourrait poser questionnement et sur lequel tu pourrais intervenir et peut-être même pouvoir m'aider, je sais pas. Sur l'actu, l'actu Hamas, Israël, Palestine, Israël, enfin, mets tout ce que tu veux dans ce contexte-là, mais dans ce questionnement-là, mais tu vois de quoi on parle. Les proportions que ça prend, je parle pas du conflit, enfin le conflit en lui-même, oui, il prend des proportions qui sont inadmissibles, mais ne serait-ce que chez nous en France, les positions de, pour faire simple, l'histoire de la chronique de Guillaume Meurice, l'intervention de, c'est Yael Braun-Pivet, je crois. Les condamnations des uns des autres, les non-condamnations des uns des autres, ça c'est pas ouf. Après, si on veut rentrer dans le débat, n'y a pas 50 solutions, quoi, je veux dire. Non, il n'y a pas de solution d'ailleurs. En l'état actuel des choses, il n'y a pas de solution. Si, moi je vais te donner la mienne. Ce serait juste que Israël arrête sa politique de colonisation. Voilà. Déjà, dire ça, va falloir que je l'explique. Et je me rends compte que, en vrai, c'est pas que je peux pas. C'est que là, j'ai pas envie. Mais reprenons. Si t'es curieux, reprends l'historique de la création d'État d'Israël. Et reprends toute la progression territoriale d'Israël vis-à-vis du droit international. Voilà. J'ai pas l'énergie de rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que je suis capable de te dire, c'est que cette politique de colonisation de l'État d'Israël, bah, globalement, elle est pour beaucoup dans ce qu'on vit aujourd'hui. Mais sans rejeter complètement la faute là-dessus, si on veut aller regarder la cause des causes, il faut regarder la cause de la création d'Israël, où est-ce qu'on les a mis, pourquoi on les y a mis, avec l'aide de qui et sous quelle influence. Voilà, c'est pas neutre, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais dans l'histoire. D'accord, je te mets pas les Israéliens contre tout le monde, le Hamas, ce qu'ils ont fait, c'est pas ouf non plus. Je dis juste que c'est une question qui est trop vaste pour que moi je puisse te filer déjà toutes les clés, parce que c'est pas mon taf. Mais ça m'empêche pas d'avoir une opinion et d'aller chercher les éléments. Ce que je peux te conseiller, c'est d'aller chercher des éléments, c'est de t'intéresser à la question, de te forger ton opinion. Mais c'est pas forcément se forger une opinion pour se forger une opinion. Et à la limite, si le problème Hamas-Palestine, tu vois, j'ai un petit lapsus, mais Hamas-Israël-Palestine, Jordanie-Cisjordanie, parce qu'on va pas oublier les autres, hein, les Égyptiens, Gaza, tout ça. Si t'en as rien à branler, ben t'en as rien à branler. Je te jugerai pas là-dessus. Quoique, je sais pas. Mais c'est pas un impératif. Donc ouais, ça déjà, cette ambiance-là est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le dernièrement? Les élections en Argentine, hein? Avec Elvis Presley à la tête du gouvernement, ça va être sympa, ça. Ouais, je dis Elvis Presley parce que si t'as pas vu la tête de... Comment il s'appelle? Milei? Vas-y, ça vaut juste le coup d'œil. C'est de la boutade, hein, mais ça vaut le coup. Non, et puis avec un peu de chance, tu peux même le trouver avec une tronçonneuse à la main. Ouais, parce que pour replacer un peu le truc, Milei, c'est un ultra-libéral. Donc, de droite. Mais un ultra-libéral de droite aujourd'hui, bah, globalement, c'est un gros facho. Quand tu vois la politique qu'il a décidé de mettre en place, enfin qu'il va essayer de mettre en place, parce que attention, c'est pas fait non plus, mais est-ce qu'il promet au peuple argentin? Tu te dis, waouh, c'est des larmes et des sueurs, c'est des larmes et de la sueur, quoi. Le mec, il a une tronçonneuse, c'est pour couper dans les dépenses publiques. Il annonce déjà, il a fait campagne là-dessus sur le fait de démonter le ministère de la culture, l'éducation, les droits des femmes. Il veut dollariser le pays. Non, c'est bien. Je sens qu'on va aller loin avec ce genre de monsieur. Enfin, eux, ils vont aller loin. Tiens, ça me renvoie à un truc que j'ai vu ce matin à l'hôtel. Où il y avait un petit bandeau, c'était... alors attends, faut que je te remette les mots dans l'ordre. Fais de ta réalité un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà, bah, bon rêve et bonne réalité les Argentins. Mais les Argentins, comme tu vois, on en parle un tout petit peu moins, mais comme les Hongrois, hein, parce qu'il y a quelques temps, les Hongrois, c'était c'est Orban, je crois, donc le droit à l'avortement, les libertés individuelles, tu vois, une petite ébauche de ce qui se passe en Russie. Ouais, tiens, en Russie aussi. Je crois que c'est une parlementaire ou une élue politique qui a osé suggérer qu'elle pouvait être candidate à la présidentielle et qui vient de se faire convoquer au Kremlin. Et tu fais, oh les gars, oh, c'est bon ou... Bah non, j'allais dire, on est dans un pays libre, mais non, on est en Russie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est marrant aussi? Bah, la Slovaquie. La Slovaquie qui commence elle aussi à s'élever au régime radicaux dur. Non, c'est bien, il y a une bonne ambiance de merde. Mais en même temps, on fait rien pour que ça change. Ouais, je m'inclus dans le truc. Bien sûr. J'essaye de réfléchir, j'essaye de discuter, j'essaye d'échanger, de faire prendre conscience de certains trucs aux gens. Mais si on parle d'action directe, enfin, voilà, attention. Attention, attention, c'est écouté. Mais si on parle d'action plus concrète, je suis comme globalement 99% de la population, je suis dans l'immobilisme. Et des fois, ça me gêne, même moi personnellement, ça me gêne d'en arriver à ce constat-là. Mais je suis confronté à cette réalité où ce que j'aimerais bien le faire pour un, si je le fais pour un, je vais me dire pourquoi je le fais pas pour d'autres. Et ça, c'est le truc sans fin où tu fais, mais je peux pas le faire pour tout le monde. Sinon, c'est mon humanité que j'y laisse, ma santé mentale. Donc voilà. Donc l'actualité, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce qu'il y a de plus fou, hein. Mais j'allais dire comme d'habitude. C'est parce que ça deviendrait presque une norme depuis qu'on a Tocard premier au gouvernement à la tête du pays. Les autres étaient pas mieux. Hein. Mais celui-là, putain, il nous fait mal hein, quand même. Celui-là, il nous fait mal. Socialement parlant, civilement parlant, humainement parlant. Moi, j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre les gens qui. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre sa vision des choses. Mais j'ai du mal à comprendre les gens qui partagent sa vision des choses. Mais bon, c'est ma fabrication. C'est ce que je suis moi. Voilà. Désolé de t'imposer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, les podcasts, j'en écoute tous parano. Je t'en ai déjà parlé, je crois. Oui, j'ai déjà dû t'en parler puisqu'on m'a fait un retour. On m'a dit, oh ok, c'est cool. C'est plutôt bien construit. Enfin, la personne qui l'a écouté m'a dit, c'est plutôt bien construit et c'est chouette. Donc, tant mieux si ça a pu marcher pour quelques-uns d'entre vous. J'ai pas découvert grand-chose d'autre en ce moment. Relativement au podcast, il y a un truc sur lequel il faut que je me penche absolument, c'est me procurer Autopia. Donc j'ai pas le nom, j'ai plus le nom de l'auteur. Il doit y avoir un Camille quelque chose là-dedans, ou Michel, ou je sais pas quoi. Mais Yerslo te le dira mieux que moi. Va écouter Libéré pour pas de conduite, il y fait référence dans un premier épisode. Et je crois qu'il y revient un peu plus longuement dans c'est peut-être pas le dernier ou l'avant-dernier. Mais regarde en date du 23, donc ça doit être un podcast de début novembre, fin octobre, je pense. Libéré pour pas de conduite. Voilà, ça, il m'a vendu un truc qui. La manière dont il l'a exposé me donne réellement envie d'y aller. Mais ça, c'est peut-être mon côté idéaliste, utopiste, qui a résonné quand il a fait mention de ce bouquin-là. Ouais, voilà, le taf. Le podcast, j'ai un gros maelstrom dans la tête en ce moment au niveau du podcast, donc avec plusieurs points d'entrée qui me plaisent pas plus que ça. Tu connais ma position sur le podcast et j'espère que tu la connais. Si tu la connais pas, je te demanderai pas de te référer aux épisodes précédents. Mais globalement, il y a des pistes qui sont. Je cherche le mot. Il y a des pistes qui sont évoquées, qui sont prises, des directions qui me posent question sur mon rapport au podcast, qui me renvoient à une discussion que j'ai eue avec Poppy qui me demandait pourquoi j'ai commencé à faire du podcast, qu'est-ce que j'en attendais, quel investissement j'ai mis. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déception dans l'évolution que je vois par rapport à un prisme personnel? Donc là, il y a une grosse réflexion sur le podcast. Pas spécialement l'envie d'arrêter. Non, sûrement pas. Au contraire, plus ça va, plus j'ai des idées qui se mettent en place sur des thèmes. Mais c'est des choses qui demandent à être vraiment construites, à discuter, approfondies. Et pour ça, rien ne vous l'échange avec d'autres personnes. Mais ça prend du temps. Et j'ai un timing qui est pas forcément... où je peux pas forcément le caser. Voilà. C'est pas que c'est pas une priorité, mais c'est je peux pas forcément le caser. Oui, donc fatalement, ça reste une priorité puisque c'en était... Enfin, c'est une forme de priorisation. Si vraiment c'était une priorité, je me libérerais du temps. Mais je suis ainsi fait que pour le moment, je suis ainsi fait que pour le moment, c'est pas mon centre. Mais ça n'empêche que des fois, le podcast se rappelle à toi, notamment via des réseaux sociaux, et tu fais non, cette vision-là du truc, c'est pas la mienne. Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est que globalement, je suis capable de vraiment démarrer au quart de tour. Et j'ai toujours pas résolu cette question de pourquoi je démarre comme ça quand je tombe sur certaines formes de discours autour du podcast, notamment celui de l'argent dans le podcast. Et de l'argent au sens large du terme. Voilà. Mais l'argent au sens large du terme dans le podcast. L'argent en soi, j'ai pas de souci. Moi, je gagne ma vie, je vole personne. Voilà. Quoique même ça, même cette phrase-là, elle résonne bizarrement parce que c'est quoi la notion de vol? Du point de vue d'un politique, je suis pas sûr que ce soit du vol. Voilà, on s'est compris. Mais pour la faire courte, pour moi, le podcast doit être libre, gratuit, basé sur l'entraide, la mutualisation des moyens. La notion de mercantilisme, la notion d'argent ne doit pas avoir sa place. C'est sûrement une vision très archaïque pour certains. Pourquoi pas, je peux l'admettre. Faudrait vraiment qu'un jour je me penche sur cette question-là, mais à bloc, pour éclaircir ma pensée et peut-être aussi l'expliciter plus facilement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, pour moi, la subordination du podcast à l'argent, c'est non. Il peut y avoir des questions d'argent dans le podcast, notamment pour organiser des événements, faire des appels je marque un temps parce que je vois des warnings là-bas. Ok. Hop, on va juste se déporter. Il peut y avoir des appels, par exemple, au mécénat. Une forme de mécénat, des appels aux dons, voilà. Ça, ok. Il n'y a pas spécialement un lien de subordination du podcast vis-à-vis de son mécène ou de son donateur. Voilà. Tu vois ce que je différencierais avec du sponsoring ou du Patreon. Moi, globalement, à partir du moment où tu vas chercher de l'argent et qu'il y a une contrepartie derrière, bah, t'es plus libre, ton podcast t'appartient plus. Moi, ma ligne de conduite, elle est là. C'est de me dire, non, moi, je dois rien à personne et personne ne me doit rien. Malheureusement, aujourd'hui, le système mondial tourne sur le capitalisme et le sponsoring ou le Patreon ou tout ce que tu veux, c'en est. Mais globalement, si tu dois mettre de l'argent, si on vient te chercher pour mettre de l'argent du podcast ou si on te propose quelque chose une monétisation sur une prestation de podcast, bref, ok, si t'arrives à la concevoir, ça va. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Pour moi, c'est plus le podcast tel que je l'ai connu ou tel que je l'ai démarré. Voilà. J'ai pas fini avec ce sujet. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais je pense que ça va être... j'allais dire mon marronnier, mais non, parce que pour ce sujet-là, j'ai pas de saison. Donc, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Si t'as envie d'essayer de comprendre ma position et si globalement il y a des questions que je pose pas ou que j'ai pas encore posées, mais que toi tu te poses, tu peux me les envoyer. Tu m'envoies ça à ramlepodcast@gmail.com, ramlepodcast@gmail.com. Et de toute manière, je prendrai le temps d'y la lire et je prendrai le temps d'y répondre s'il y a une question ouverte. C'est pas un problème. vu que j'ai pas spécialement d'alerte sur, sur cette boîte mail, tu as Follpass, tu envoies un mail et ça prend un peu de temps. Mais ça pourrait prendre aussi du temps selon la complexité de la question et de la réflexion que ça amène chez moi. Voilà. Mais c'est un débat que j'ai toujours d'ouvert. C'est un débat qui revient régulièrement. Voilà. Je n'arrive pas à concevoir ça. Mais c'est ma façon de voir le truc. Elle ne constitue en aucun cas une norme. Elle serait même plutôt dans une minorité. Parce que je sais qu'à l'opposé de ça, bah, y a des gens qui ne font ça que pour ça. Après, il y a des entre-deux qui vont se faire rémunérer pour une prestation ou un truc comme ça. Et tu fais... Ouais, ok. Je comprends pas. Je comprends pas le... Enfin... Mais je pense que ça vient de là d'où je viens. Ça vient de mes premiers rapports au podcast, de comment je l'ai construit, comment je l'ai découvert, comment je l'ai approfondi. Moi, j'envie les gens qui me disent « Mais nous, le podcast, c'est juste du délire, c'est juste de la marade. » Et qui gravitent en plus dans ce monde où il y a des enjeux pour certains. Ça devient très flou comme raisonnement. Je vais arrêter là-dessus et je vais voir s'il y a de quoi passer à autre chose. Parce que ça génère beaucoup trop d'émotions. La question qu'il faudrait que je me pose, c'est pourquoi ça génère autant d'émotions. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas encore mis sur la table. Je sais qu'ils sont là, mais ils doivent être dans un tiroir sous la table. Et je pense qu'il va falloir que je descende du tiroir et que je les mette dessus. Et que il y a un moment, j'accepte de les regarder et de me dire « Ok, ça marche, ça marche pas. Pourquoi ?» Bref. Ah bah là, tu vois, le temps se couvre. Bon, en même temps, tu viens de passer la Charente. Donc, ouais, par contre, la Charente, elle a bien débordé. Pourtant, il n'a pas plu depuis un moment, de ce côté-là. Mais elle a bien débordé. Elle a bien quitté son lit. Elle est en train de nous faire ce qu'on appelle dans le bordelais des vignes de palu. Peut-être que je t'ai déjà expliqué ce que c'était que les vignes de palu. Du côté de Fronsac, quand je faisais les vendanges chez Yannick, c'est en bordure de... C'est la Dordogne, là. C'est en bordure de Dordogne. Et les bords de Dordogne sont relativement plats. Attends, je te dis pas une connerie, mais c'est la Dordogne. Bref. Il y a une grosse flaque d'eau, là, qui fait plusieurs kilomètres de long. Et elle a tendance à déborder. Et les rives, au moins de ce côté, du côté des vignes de Yannick, sont vraiment à la limite du niveau de l'eau. Et dès que ça monte un peu, ben, ça fait comme le Nil, ça te fait une crue sur les rives. Et c'est relativement plat, c'est relativement hermétique. Donc l'eau a du mal à s'infiltrer et elle stagne jusqu'à ce que le fleuve reprenne son lit. Ce qui se passe, c'est que tu as des sédiments qui arrivent du fleuve, qui se déposent dans les champs, dans les vignes, et qui viennent nourrir. C'est ce qu'on appelle des vignes de palu. Voilà. Alors, est-ce que c'est palu pour faire référence aux alluvions? Est-ce que c'est une déformation sémantique? Je sais pas, j'ai pas vraiment posé la question. Tu sais, les vendanges, au bout de deux jours et trois verres, bah, tu fais facilement abstraction de ces thématiques-là. Mais là, c'était pour dire que la Charente a débordé, voilà, tout simplement. J'espère que tu trouves ton compte dans cette explication. Ouais, et donc du coup, bah, c'est en train de se couvrir, donc je pense que c'est reparti pour... Je pense que c'est reparti pour un petit peu de temps grisâtre. J'espère que ça va pas jouer sur le moral. Un truc dont on s'est rendu compte, c'est dimanche dernier, avec Poppy, on est sorti dimanche soir. Enfin, dimanche soir, non, tu vas voir. Dimanche, je sais pas, dimanche après-midi, peut-être 17h30, on est parti raccompagner une copine bonjour les bleus. On est parti raccompagner une copine à son arrêt de bus pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Et On avait envie de sortir, boire un coup, de marcher, de prendre l'air. On n'avait pas bougé du dimanche. On a eu fait un week-end très productif où on avait fait un petit peu d'installation dans la maison. Enfin, dans l'appart. 17h30, bah, il faisait encore à peu près, tu vois, le crépuscule entre... C'est quoi cette expression? Entre chien et loup? C'est ça? Corrige-moi si je me trompe, je crois que c'est entre chien et loup. Tu sais, ce moment où il fait pas encore totalement sombre, mais il fait plus totalement jour non plus. Une espèce de crépuscule, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Et je sais pas, donc on marche, on descend le mail François Mitterrand. 17h40, une dame nous arrête sur le pont de Bretagne et elle nous dit « Excusez-moi, quelle heure il est? Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît ?» Donc on regarde, 17h40. Elle fait « Non, parce que je vois le jour tomber à grande vitesse et il fait… » Et j'avais l'impression d'être en retard. Je dis « Bah ouais, ok, pourquoi pas ?» Enfin bref, donc on continue. Et puis, bah oui, parce qu'au départ, on était parti pour boire un coup à la piste. La piste, c'est au bout du mail François Mitterrand. Et il se... Oh, tiens, putain, ouais, faut que je revienne sur la piste. Attends, je finis ce truc-là et je reviens sur la piste. Et... Donc, pont de Bretagne. Et on se dit, bah, du coup, on va aller boire un coup au Fox. Pub bien connu des Rennais. Et même des pots de Rennais, pour certains. Et on se pose en terrasse, donc on se boit une bière tranquille. Et là, 6 heures, un noir, mais monumental. Un noir du plus noir, profond. Alors déjà, la terrasse du Fox est entre deux bâtiments qui sont relativement hauts. Mais tu lèves la tête et il fait nuit. Il fait nuit, tu sens le froid qui tombe et il est 6 heures du soir. Et là, tu vois, ça fait... Tu vois, cette espèce de coup de déprime... te dire, putain, il est 6 heures du soir, tu repenses à il y a 6 mois, tu étais en été à cette heure-là, il faisait encore beau, chaud et jour. Et ouais, ça... Tu sais, bah, je pense que c'est ce syndrome de l'hiver là que tout le monde a, où c'est déprimant. Quoi. Et je me disais, putain, mais... on a digressé après sur la luminothérapie qui faisait... pardon, excuse-moi. qui faisait dans les pays... nordique et proche du cercle polaire dans certaines régions de la Russie où tu es obligé où ils te conseillent quand même de faire de la luminothérapie qui est censée reproduire au maximum la lumière naturelle pour que justement ton corps puisse synthétiser une espèce, je crois que c'est la vitamine D. Voilà, donc on a fini la soirée là-dessus. Et bon, tu rentres, il est 7h, 7h30, et il fait nuit, c'est triste. Mais c'est triste partout, il fait nuit, de toute façon. C'est pas propre à Rennes. Par contre, Rennes, la piste, tant que je te tiens, hein, ce serait con de pas... Non, vraiment, je m'en voudrais de passer à côté de ça. J'ai dû le partager sur Blue Sky. Pour les peu de fois où j'y vais, j'ai dit, tiens, bah, il y a un truc qui a été salutaire, c'est se barrer de Twitter. Mais c'est surtout que... Non seulement je suis plus sur Twitter, mais je suis plus autant. Alors Mastodon et Blue Sky, je ne reproduis pas la fréquence d'apparition, la fréquence de consultation de ces réseaux. Et ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide réellement. C'est un truc qui ne me manque pas du tout. Et je retire même un certain bénéfice parce que ça me... Alors ça me fait chier de le dire, mais ça me permet aussi de me recentrer un peu sur moi. Et de sur ce qui est important pour moi et mon environnement, mon entourage. Voilà. Notamment quand on voit le monceau de conneries qui y passe. Mais ça, c'est pareil, c'est une discussion qu'on. Enfin, c'est un propos que j'avais déjà tenu, ça dépend de tes filtres, ça dépend de ce que tu suis. Et voilà. Globalement, le réseau social, il est ce que tu en fais aussi. Voilà. Ouais, la piste. Donc, la piste au bout du mail François Mitterrand, la piste à boire, la piste à manger. Je te cache pas que je suis plus souvent à la piste à boire qu'à la piste à manger. Mais c'est le même truc, hein. Ils sont côte à côte et c'est le même propriétaire. Globalement, propriétaire, je crois qu'il a 5 établissements sur Rennes. Donc il doit y avoir la piste, il doit y avoir le Saint-Germain, il doit y avoir la Nouba, je crois. Et les deux autres, je les ai plus en tête. Et ils ont fait le 10 et 11 novembre le lancement de la brasserie Smash, qui va servir à approvisionner ces établissements-là. Et pour info, Smash, c'est... donc je ne savais pas, hein, moi j'ai appris tout au fil de la soirée. Smash, apparemment, c'est un ancien de chez Gallia à Paris, qui est venu avec un projet, ou qui a monté ce projet-là avec le patron des 5 établissements. Donc il y avait un petit peu de tout comme bière. Il y avait de la rye, il y avait de l'IPA, ça la SP95, je crois, qui est une brasserie, une bière brassée type belge. La rye est censée être une triple. Moi, j'y mets encore des doutes là-dessus, mais... Enfin non, justement, ils la brassent façon triple. Mais vu que c'est une rye, c'est pas la triple au sens commun du terme où on l'entend. Elle a pas cette force, elle a énormément d'amertume, mais c'est à cause du houblon rouge qu'ils mettent dedans. La SP95 bière belge, elle est plutôt bonne, ressemble, et elle pour le coup tirerait plus sur le profil type d'une triple. Ils ont une sour qui est plutôt bien foutue, qui tient longtemps, qui est pas trop sèche, qui est bien, qui distingue bien ses arômes. Donc ça c'est sympa, mais ils ont surtout un... Alors nous on arrive après la bataille, c'est dommage. Et c'est, ils ont fait l'ouverture en servant une Imperial Stout à... Alors je crois que c'est... J'avais dit 13,5 dans mon post sur Blue Sky, je crois que c'est 13,1. Mais bon, quand t'as passé les 13, franchement, est-ce que t'es à 4 dixièmes? Et c'est une Imperial Stout, mais en collaboration, donc Gallia Smash. Non, je te dis une connerie. C'est une collab. C'est étiqueté sous Gallia et ça s'appelle la Boss Finale. Ils ne la servent qu'au galopin au camp demi. Ils ne la servent pas en pinte. C'est un parti pris. Moi, une pinte à 13,5, bon, globalement, j'en prends qu'une au lieu de prendre deux demi. Hein. Voilà. Mais de tout ce que j'ai bu goûter en Imperial Stout, et quand tu sais que c'est Loli qui m'a fait ma culture sur ce type de bière, donc Loli du Havre, hein, le Loli du Focol, le Loli de Dozen Beers, voilà. C'est parce qu'on a beaucoup de Loli dans nos contacts. Donc sur Twitter, je sais pas s'il y a encore, mais je crois que c'était TheLoli76. Et voilà, quand je te dis que c'est Loli qui m'a fait ma culture bière, et que je te dis que globalement là j'ai goûté une des meilleures Imperial Stout de mon existence, je pèse mes mots. J'ai goûté du Cloudwater, j'ai goûté du Omnipolo, j'ai goûté du Basque Land, j'ai goûté des grandes brasseries, ce que je considère être comme des grandes brasseries qui savent ce qu'elles font. Et là, je suis tombé sur une des meilleures Imperial Stout de ma vie. Si tu peux trouver ça, alors malheureusement tu ne la trouveras qu'en bouteille. Moi j'en ai acheté 4 bouteilles. J'ai prévu de les faire goûter à des amis. Juste goûter, qu'ils soient fans, pas fans, qu'ils aient envie, qu'ils aient pas envie. Mais je me dis que ce serait con de passer à côté de ça. Parce que ça développe des arômes. On a ce cacao qui revient. Ah, c'est. Moi, en vrai, je préfère la boire que d'en parler, quoi. Mais je te dis, si tu passes sur une Boss Finale, même si c'est en bouteille, ce serait con de passer à côté. Voilà, ça, c'est tant que j'y pense. Et ce sera peut-être le mois de la fin. Ah, c'est plus léger. Ouais, c'est plus léger comme fin. Enfin, une fin à 13%, 13 degrés 1, je ne sais pas si c'est très léger. Voilà. Le seul hic, c'est que eux, ils en ont plus. On a fini toutes les barriques. Donc, peut-être que tu pourrais choper quelques bouteilles. Mais si vraiment tu as l'occasion, même de goûter, juste une gorgée, ça vaut le coup. Voilà. Allez, je te laisse là. Je pense que j'ai pas résolu tout ce que j'avais peut-être en tête ou ce qui aurait pu me venir en tête au fil de l'enregistrement. Va falloir que je me demande pourquoi je l'ai pas fait. Mais je te souhaite une bonne continuation. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Prends surtout soin de ceux que tu aimes. Et je te dis à la prochaine. Et vive le podcast libre. Bisous, ciao.
It's now 9:17.
Number is 7.